Bonjour à toutes et à tous, ici l'œil de Chéri. Avant de plonger dans votre épisode, voici un petit moment de publicité. Et oui, ça y est, le podcast devient tellement influent qu'on nous demande de faire de la publicité. Mais ça tombe bien car c'est sur notre compositeur préféré. Alors je vais vous parler d'un événement pas comme les autres. Il s'agit de Beethoven Wars. Du 23 au 26 mai, la scène musicale accueillera ce spectacle immersif imaginé par la chef d'orchestre Laurence Equilbet et l'auteur-réalisateur Antonin Baudry. Imaginez un space opéra immersif ou un film d'animation inspiré de la science-fiction et de l'univers manga qui se marie harmonieusement avec les œuvres moins connues de Beethoven. C'est ce que vous promet Beethoven Wars. Pour en savoir plus sur cet événement unique et captivant, rendez-vous sur le lien en description de cet épisode. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience fantastique. On lance l'épisode et peut-être on se retrouvera du 23 au 26 mai à la scène musicale.
Écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chéri. Nous fêtons aujourd'hui notre épisode 200. On n'aurait pas cru que nous serions allés aussi loin quand nous avons lancé notre podcast en mars 2020. On en profite pour vous remercier, chères auditrices et auditeurs, car ce podcast continue d'être une belle aventure éditoriale et on espère continuer au maximum à faire d'autres épisodes sur la science-fiction. Vous nous envoyez beaucoup de messages et ça fait toujours très plaisir et on va continuer à vous réjouir et à garder cette même rigueur. Je sais que vous aimez bien nos émissions car il y a une diversité et ça tombe bien car on va essayer de vous apprendre un petit peu les coulisses de l'édition dans cette émission. Souvenez-vous, le premier épisode était avec Alain Damasio et donc pour célébrer ce numéro 200, nous nous sommes dit que nous allions faire un épisode avec son éditeur et l'histoire éditoriale de La Volte qui fête ses 20 ans, Mathias Echenet. Bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de la SF.
Bonjour.
On se connaît depuis longtemps, Mathias. Vous faites partie d'un de mes parrains dans le milieu de l'édition. J'adore venir vous voir pour vous soumettre mes idées les plus farfelues et puis aussi pour vous titiller. Vous êtes aussi connu pour être le grincheux de la science-fiction française, Mathias Echenet.
Tout à fait.
Trêve de plaisanterie. Est-ce que Mathias, vous connaissez déjà, c'est quoi la date d'anniversaire de La Volte précisément?
Eh bien, je crois que c'est le 28 mai, mais il faudrait vérifier, c'est-à-dire qu'on est tombé sur des archives et ça doit être le journal officiel qui doit dire le 28 mai, mais bon, c'est peut-être le 26. C'est entre 26 et 28 mai, création de la boîte. La question, c'est est-ce que c'est la création de la boîte? Est-ce que c'est la sortie du premier livre, La Horde du Contrevent, si je me souviens bien? Voilà, c'est donc pour ça qu'on fête ça toute l'année, en fait.
On va remonter le temps avec vous. Ça va être une émission aussi un peu best-of des meilleurs moments de la Volte. Comment est-ce que vous avez rencontré Alain Damasio, qui, je crois, a été une rencontre décisive pour la suite de vos propres aventures?
Alors, je crois que c'est bien parce qu'on n'a pas la même version. Donc, la mienne, c'est soirée à Anglet, où on faisait la fête tous les ans. Donc, ça devait être autour du 14 juillet. Mais alors, l'année, je ne sais pas. Peut-être que c'est en 1993 ou 92. Et il est venu exprès par un ami, un copain surfeur de la région, Yep, parce qu'il avait écrit un roman et il connaissait personne dans l'édition. Il connaissait Yep qui me connaissait. Moi, je travaillais dans l'édition. J'étais au commercial, au seuil. Voilà, donc ça devait être à cette période-là où il m'a parlé toute la soirée de philosophie, tout ça. Et moi, j'étais bourré. Et il voulait absolument que je lise son premier roman, qui était La Zone du Dehors. Voilà.
Et est-ce que quand vous avez lu La Zone du Dehors, il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est génial? Est-ce qu'il y a une épiphanie? Un peu le côté, vous savez, le côté légendaire de l'édition. On aime beaucoup être dans ce genre d'histoire.
Ben en fait, oui. C'est pas mon genre pourtant. Et c'est Alain d'ailleurs qui rappelle qu'il paraît que je lui ai dit que c'était génial quelques jours après. Donc, à la fois lire tout de suite un manuscrit et dire que c'est génial, c'est vrai que ça ressemble pas au grincheux d'aujourd'hui, peut-être. Mais effectivement, au début, je voulais pas le lire parce que je voulais, mon avis de commercial importait peu. C'était vraiment le faire circuler. Ça, j'avais envie de l'aider, de lui trouver un éditeur. Mais il se trouve que on était en voiture, on revenait d'Anglette pour aller à Quiberon et que j'ai lu ça dans la voiture. C'était des feuilles, hein, pas Internet, hein. Et je me souviens pas de l'émotion, quoi. Je me souviens que j'avais trouvé ça génial, que j'avais découvert que c'est un roman, que c'était un roman, alors que j'avais pas compris que c'était un roman parce qu'il me parlait de Deleuze, Guattari et tout ça. Et effectivement, ouais, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Ouais.
C'était La Zone du Dehors. Pourquoi La Zone du Dehors a eu du mal à trouver un éditeur à l'époque ? Est-ce que vous le savez ?
Oui, enfin, a posteriori. Disons, en tout cas, on peut dire que j'ai envoyé à beaucoup d'éditeurs. Je ne connaissais pas énormément de gens, mais je connaissais des gens. Et on a envoyé aussi à des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, on n'a eu pas de réponse ou des réponses nulles. Ou voilà. Après, je ne fais pas toujours mieux avec les manuscrits. Mais aujourd'hui, on en a conclu très clairement que il y avait pas de curiosité pour la science-fiction.
Oui.
Voilà, que ça devait être ça, qu'on savait pas ce que c'était, de la science-fiction ou de la philo. Voilà, c'est vraiment très classique.
Cette histoire va se répéter avec La Horde du Contrevent. Alors, ça paraît bizarre puisque c'est considéré maintenant comme un des meilleurs livres de la science-fiction française, un des livres les plus populaires. Beaucoup de jeunes ont lu La Horde du Contrevent, mais pareil, pas d'éditeur à l'époque.
Oui, alors pour être un peu plus précis, donc La Zone du Dehors, on l'a édité chez un copain. J'étais actionnaire de sa boîte, c'était Silibris. Et c'était la négation de mon métier, enfin pas d'éditeur, mais c'était la négation de l'intermédiation, c'est-à-dire ils vendaient sur Internet, c'était les démarrages des ventes de livres sur Internet. Et voilà, bon, bref, quand il me demandait conseil, il faisait en général le contraire, hein, un peu comme vous, cher Lloyd. Et donc, et il avait bien raison. Et donc, quand Alain, devenu un ami entre-temps, nous a parlé avec mon copain Olivier de Silibris d'un roman où il y avait 23 narrateurs, on ne savait pas qui parlait et tout ça, on s'est dit qu'il lui fallait vraiment un éditeur. Mais en fait, j'étais chez Flammarion et j'avais trouvé quelqu'un qui est important dans la science-fiction, dans la littérature. C'est Jacques Chambon. Voilà. Et donc, Jacques Chambon, moi je travaillais chez Flammarion. Jacques Chambon montait les étages pour venir dans mon bureau me parler de science-fiction, puisque ça n'intéressait personne, à part nous deux. Et donc, Jacques croyait beaucoup au projet d'Alain. Voilà. Après, il voulait lui faire. Il voulait qu'il y ait des modifications substantielles. Il voulait. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'aventure serait allée au bout, ou si ça aurait donné le même livre. Mais il se trouve que Jacques est mort avant que le livre soit terminé. Même, il était même pas à la moitié. Et c'est là où il semble qu'on l'ait envoyé à plusieurs éditeurs, mais pas tous ceux qu'on connaissait comme pour La Zone du Dehors. On l'a envoyé effectivement à plusieurs éditeurs. Et ces éditeurs n'ont pas adhéré, voire ont expliqué que c'était vraiment pas intéressant, voire impubliable. Faut dire que voilà, La Horde, c'était, je pense, vraiment la question de c'est quoi ce truc, quoi ? Ça cochait toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire, a priori, dans l'édition. C'est gros, on ne sait pas qui l'a écrit, c'est très littéraire. On ne sait pas si c'est de la science-fiction, de la fantasy ou de la philosophie. Voilà. Et donc, très rapidement, Alain est venu à la maison pour me convaincre de monter la maison d'édition ensemble.
C'est une histoire de dingue, hein, quand on y pense que le livre, un des livres les plus vendus en France de ces 20 dernières années en science-fiction...
Oui, vraiment.
Ça se passe comme ça.
Ah non, mais vraiment. Et puis, moi, je peux faire le type qui avait tout prévu et qui avait tout senti, mais pas du tout. D'abord, j'ai créé La Volte, et c'est encore un peu le cas, en n'ayant pas comme objectif d'en vivre, et donc de façon, hein, on va le dire comme ça, d'être très libre. Et j'ai retrouvé le prévisionnel, puisque là, effectivement, on prépare les 20 ans. Donc là, je donne en primeur. Donc je crois que c'est le 28 mai, à vérifier si ce n'est pas le 26. Et j'ai trouvé le prévisionnel, j'ai trouvé les documents où d'abord on essayait de trouver un nom avec Alain et Olivier et toute une bande, Olivier Guénon donc de Célibris. Et donc il n'y avait pas du tout La Volte. Je me souviens que j'ai trouvé ce nom à la toute fin parce que vraiment ce n'était pas possible. Et d'ailleurs tout le monde me disait au début pourquoi La Volte, mais qu'est-ce que ça veut dire, alors que personne ne me pose la question aujourd'hui. Et d'autre part j'ai trouvé le prévisionnel et donc le prévisionnel optimiste. C'était déjà ambitieux, c'était 1800 exemplaires de vente pour La Horde du Contrevent. Donc c'était pas être visionnaire, juste je voulais, on voulait que ça existe, j'y croyais comme livre important, hein, mais voilà, c'était pas du tout. Enfin voilà, c'était improbable hein, ce qui arrivait avec la Horde.
Alors vous avez eu l'instinct de l'éditeur, mais vous avez mis du temps à devenir une vraie, entre guillemets, maison d'édition, car un collectif s'est créé, les fameux Volté, qui vous ont aidé à faire exister cette maison d'édition. Comment êtes-vous au début, comment ça s'est un petit peu organisé la Volte? Parce que moi, quand je vous ai rencontré en 2017, j'avais l'impression de voir une grande tribu sympathique avec de multiples profils. Et à quel moment vous avez...
Pas de multiples profils.
C'était pas vraiment des multiples profils, c'est un beau lapsus de ma part. À quel moment vous vous êtes dit, on va prendre des gens qui veulent nous soutenir, ils vont être bénévoles. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup ça dans l'édition, on va dire, classique.
En fait, je ne sais pas répondre à cette question. Je vais répondre à ma manière. Disons que moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir plein de gens autour de moi. Quand il n'y a personne, je ne fais rien. Et donc, il y a toujours eu, dès le début, un côté collectif. Et j'ai toujours râlé parce que bah, ils avaient leur vie, ils avaient d'autres choses à faire. Donc, les gens qui ont travaillé pour faire la Horde et tout ça ont été payés, hein. Mais effectivement, j'avais besoin de volter. Et donc, très tôt, et ça, je ne sais pas, mais peut-être en 2011, ce qui est quand même déjà 7 ans après la création de la Volte, hein, on avait créé les encombrants, c'est-à-dire... alors, c'est les encombrants, c'est encore des blagues à 2 balles. Parce que les encombrants à Clamart, chez moi, c'est le 3e mercredi du mois. Et nous, on a fait le 1er mercredi du mois à Paris. Et c'était... et qui voulait venir, c'est toujours la même chose. Tous les premiers mercredis du mois, on se retrouve. Et ça permet de rencontrer des gens, ça permet de dire plein de conneries, mais il y a quand même des projets qui naissent. Et c'est foisonnant, je rencontre des nouvelles têtes, des lecteurs, des lectrices, voilà. Et on a besoin de ça. Donc c'est comme ça que ça s'est appelé les Voltés. En fait, il y a toujours eu un petit mystère, mais pas du tout savamment entretenu. C'est juste que, par exemple, quand on allait, et encore aujourd'hui, quand on va aux Utopiales, on est toujours toute une bande. Donc, et quand on nous demande combien on est, on rigole, mais... parce qu'on ne sait vraiment pas, en fait. Y a des gens qui sont là, qui sont des amis, qui font des choses, d'autres qui font rien du tout, mais qui sont juste des amis et qui lisent des livres. Et puis, selon les projets, y a plus ou moins de personnes.
Oui, c'est ça qui est toujours aussi agréable quand on vient aussi chez vous, Mathias, c'est qu'il y a toujours du monde, c'est qu'il y a aussi quelque chose... En tout cas, la notion de collectif, c'est quelque chose que j'apprends avec vous, puisque je suis toujours fasciné de voir le monde qui gravite autour de la Volte et qu'il y a aussi des vrais liens d'amitié qui se créent et qu'il y a des vrais moments où on rigole, on s'engueule aussi, d'ailleurs, mais c'est assez, oui. C'est toujours virevoltant, quoi.
Oui, oui. Alors, c'est Norbert Merjanian, un autre de nos camarades et associés, qui grogne, il grogne encore plus que moi sur le nom de collectif, le mot de collectif, mais aussi parce que c'est très récupéré à droite à gauche, tout ça. Je crois qu'il y a vraiment une notion de collectif chez nous. Et j'aime bien que ce soit le bordel. Et en même temps, voilà, enfin que ça génère quelque chose. Enfin, donc j'ai besoin de ça. Voilà. Et je veux dire quand même aussi, parce que souvent on me dit... que ce serait pas juste si j'oubliais ça, c'est vrai que c'est collectif, j'ai besoin de ça. Y a plein de choses que je ne fais pas et que je laisse faire par d'autres. C'est ma spécialité, c'est d'essayer de faire les choses aux autres. Et à ceci près que la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est moi qui décide des textes qu'on publie. Voilà. Des fois, je subis des pressions pour absolument faire un livre, traduire Karen Joy Fowler pour faire parce que c'est trop bien. Et j'ai Luvan et Léo qui me harcèlent pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'est trop bien. Mais je sais qu'on ne va pas beaucoup en vendre. Et voilà, et on le fait. Mais sinon, c'est vrai que quand même, je décide. Quand j'ai des doutes, je demande à beaucoup de gens et à Norbert en particulier. Mais voilà, donc c'est voilà, collectif, mais... Pour saluer, peut-être qu'on en parlera, un mot de Philippe Curval au moment des 10 ans de la Volte. C'est évident, mais quand on nous connaît, c'est ça. Il a dit, dans maison d'édition, il y a maison. Alors, il y avait édition aussi, hein, mais maison. Et c'est vrai que c'est chez moi et que j'adore qu'il y ait plein de gens chez nous. Hein, je ne suis pas tout seul avec Valérie, mon épouse. Et on a des auteurs et des autrices qui dorment et qui ont dormi pendant longtemps. Les bureaux sont en dessous, chez moi. Donc voilà, il y a le côté maison et accompagnement des auteurs et autrices. Je veux dire, voilà, on les publie sur la durée, quoi, les auteurs et les autrices.
Alors c'est marrant, vous avez parlé de traduction. Or, ce qu'on observe un peu dans le petit milieu de l'imaginaire est une certaine tendance. On vend plus facilement des livres traduits. Mais vous, avez peu de livres traduits.
Vous avez
beaucoup d'auteurs français.
Ah oui, oui, francophones, c'est une grande majorité. Ah oui, c'est une grande majorité. Oui.
Marrant que vous défendiez quelque chose à l'encontre, entre guillemets, du marché actuel.
Oui, oui. Et je m'interroge toujours parce que... Enfin, d'abord, moi, je voudrais bien vendre des livres. Hein. Enfin, on en vend, hein, mais on en vend de plus. Hein. Je choisis pas les livres en fonction de ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est drôle, quoi. Mais les livres étrangers que nous éditons sont quand même ceux qui nous coûtent le plus d'argent. Alors, évidemment, je savais que c'était quand même une folie de rééditer les premiers tomes, puis d'éditer la suite de Valerio Evangelisti. Ça fait 13 ou 14 volumes. Et même si parfois il y a des aides du CNL à la traduction, ça ne suffit pas. On doit avoir 8 ou 9 titres de Jeff Noon, enfin, qui se vendent. Enfin, moins la dernière série, mais ça viendra, j'en suis sûr. En effet, il y a un côté... je pense que c'est vraiment par rapport à nos choix et notre communication. Voilà, c'est qu'on s'y prend comme des manches. Hein, voilà.
Politiquement, vous assumez d'être de gauche et de défendre des valeurs. Et là aussi, dans le petit milieu de la science-fiction et aussi un peu dans l'édition, vous étiez aussi une exception parce que quand même, vous assumez aussi d'être engagé. Et dans la science-fiction, en tout cas, les éditeurs de science-fiction ne le présentent pas comme ça ou ne l'assument peut-être pas comme ça.
Ouais. Ouais, là aussi, ça mériterait de débattre. Hein. Alors moi, je dis que je me radicalise moi personnellement au fil des années. C'est-à-dire que bah, voilà, moi, j'étais cadre sup dans l'édition. Je travaillais dans des groupes d'édition. Toujours en pensant que je luttais contre la barbarie, que je sauvais le monde. Donc voilà, c'est assez insupportable pour mon entourage. Mais effectivement, quand je me dis vraiment, quand j'ai créé la Volt, déjà rien que le nom hein, qui vient de la zone du dehors, finalement c'était un programme. Mais au début, je ne le voyais pas comme ça. Hein. Vraiment, je voyais comme une zone de liberté. Je me suis toujours considéré de gauche, mais on va dire que j'étais plutôt de gauche sociale, démocrate. Et en lisant, en suivant, en ayant mon propre itinéraire, mais quand même, c'est d'abord un itinéraire avec mes amis écrivains et écrivaines que j'ai l'impression de m'être de plus en plus énervé par rapport au monde et penser, hein, c'est très présomptueux, que une partie de ce qu'on publie peut servir à changer des choses et des visions. Donc voilà, mais personnellement, je n'ai jamais mis ça en avant, mais ça, de fait, par les textes qu'on publie et de plus en plus, ça apparaît comme ça. Certains s'en revendiquant très très clairement, d'autres beaucoup, enfin d'autres sans avoir besoin de le dire. Donc voilà. Donc après gauche droite, j'en sais rien. Nous critiques, oui, critiques de la société, oui, oui. Enfin on peut dire ça. Après l'engagement, je crois que je l'ai écrit quelque part, mais alors qu'en fait je sais pas trop ce que. Enfin j'ai un peu de, je fais quand même pas grand. Enfin je fais des livres, quoi, et je fais pas. Enfin, je parle, ça, voilà, comme plein de gens. J'essaye de faire des livres plus écologiques. D'ailleurs, là, on change toute la fabrication, la maquette, tout ça, mais on essaye d'être un peu moins contradictoire, un peu plus cohérent, c'est tout. Mais est-ce que. Enfin, je suis pas dans les luttes comme d'autres, hein, comme d'autres à la Volt, hein, par exemple. Des fois, je dis, quand il y a des gens qui attendent beaucoup, je dis qu'on est à la Molt. Ça dira quelque chose pour ceux qui ont lu La Zone du Dehors.
Il n'y a pas qu'Alain Damasio. Heureusement, il y a d'autres auteurs et autrices comme Catherine Dufour, bah Sabrina
heureusement,
Calvo.
Heureusement, il fait un livre tous les 10 ans.
Ouais. Qui sont venus dans le podcast. Mais on peut citer Luvan, Léo Henry, Stéphane Beauverger. Et il y en a d'autres dont on va parler aussi plus tard. Comment sont-ils arrivés à la Volt? Comment ça s'est fait? Est-ce que vous êtes allé chercher des gens? Est-ce qu'ils sont venus naturellement vers vous? Ils ont vu la maison, la nuit, la lumière, et ils sont rentrés dans la maison. Comment ça s'est un petit peu passé? Comment vous êtes constitué un réseau d'auteurs au fur et à mesure?
Je ne vais pas tout décrire. Enfin, si, mais ça peut prendre 10 heures. Donc, ça sera un autre sujet. Voilà, c'est à chaque fois différent. C'est vraiment à chaque fois une démarche différente. Je suis allé chercher... j'ai par exemple une association qui m'avait appelé... parce que je ne savais pas trop quoi faire après l'ordre du contrevent. Enfin... Il y avait un copain qui avait lui-même publié le premier roman dans son association et qui me tannait pour que je le republie et que je fasse la suite. Et donc, ce copain, c'est Louis-Antoine Dujardin, avec son association Les Escogriffes et qui avait fait Chromosome de Stéphane Beauverger. Donc ensuite, on a publié Chromosome de Stéphane Beauverger et la suite, et Le Déchronologue, qui a eu plein de prix dans l'imaginaire.
Qui est un autre grand texte que la Volte a publié. Vraiment, ouais. C'est un grand texte de science-fiction française, aussi un peu oublié en ce moment, mais ça reste un très grand texte.
Ouais. Oui, enfin, je pense qu'il n'est pas oublié, mais effectivement, là, comme Stéphane fait beaucoup de jeux, il travaille dans le jeu vidéo, il publie très peu, du coup, ouais, on ne le voit plus, lui. On ne le voit plus beaucoup. Donc, il y a une association un jour qui m'a appelé, qui s'appelle Douche Froide, et Max et Lise N voulaient recréer le groupement Limite. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était des auteurs que j'aime beaucoup. Parce qu'en tant que lecteur, je n'ai pas dit... mon projet n'était pas clair, et il n'est peut-être toujours pas clair d'ailleurs pour La Volte, mais c'était quand même de publier... je trouvais un manque, moi, c'était les textes publiés en présence du futur dans les années 90, en partie publiés par Jacques Chambon d'ailleurs, et qui étaient effectivement parfois expérimentaux, mais en tout cas, il y avait vraiment un aspect politique et littéraire très clair. Et dedans, il y avait des auteurs, et puis certains s'étaient réunis dans un groupement pour un livre une fois, un groupement qui a duré 2 ans, qui s'appelait Limite. Et quand l'association m'a appelé pour faire la suite de Limite, évidemment, j'étais content. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré beaucoup d'amis directement, à savoir Jacques Barbéry et Philippe Curval, Denis Fragerman en tant que musicien, voilà, et d'autres, hein, qui sont pour certains, hélas, décédés, Jean-Pierre Vernet. Et donc c'est aussi comme ça que je les ai rencontrés. Voilà. Après, voilà, juste pour l'anecdote, pour rigoler, il y a eu Léo Henry, par exemple. J'ai raté, c'est notre blague à nous, j'ai raté le manuscrit de Yamaloka Terminus, Léo Henry et Jacques Mucchielli. C'est Norbert Merjanian qui l'avait lu et on ne se connaissait pas très bien à l'époque. Norbert avait dit « Ouais, il y a un truc bien. » Il m'avait appelé exprès pour dire ça. « Il y a un truc pas mal. » Et donc, moi, je n'avais pas compris que quand Norbert Merjanian disait qu'il y avait un truc pas mal, il parlait comme les jeunes, quoi, que c'était génial, en fait. Et moi, je lui ai dit « Ah non, mais je ne ferai jamais de nouvelles. » Et bon, il ne savait pas que quand je dis que jamais je ferai ça, ça veut dire que statistiquement, je vais le faire immanquablement. Et donc, on n'a jamais vraiment... Voilà. Donc, Yamaloka Terminus, c'est un livre extraordinaire qui vient de ressortir qui est chez Dystopia maintenant, et qui vient de ressortir en folio. Et là, Léo Henry, Jacques Mucchielli, c'était incroyable. Donc, on les a croisés dans des soirées. Je suis allé au lancement. Ils ont travaillé avec Alain chez Dontnod. Et voilà, donc c'est devenu des compagnons de route. Et on aurait publié Jacques, si Mucchielli, certainement, s'il n'était pas mort. Et Léo, c'est un de nos compagnons de route. Il publie aussi ailleurs, et notamment chez Dystopia. Voilà, donc à chaque fois, ce sont des histoires différentes.
Vous êtes un gros lecteur de science-fiction, Mathias Echenay. On parle souvent de classiques entre nous, des fois. Mmh. C'est quoi ou c'est qui vos chouchous qui sont un peu dans votre panthéon personnel ?
Oui, alors, vous m'arrêtez au bout de, de 30. J'ai beaucoup de mal à dire comme ça, donc je vais en oublier certainement. C'est vrai qu'il y a les Dépossédés d'Ursula Le Guin. Je rigole parce que c'est évident et que c'était une blague à un moment, à un festival où j'avais des Voltés avec moi, donc des jeunes, plutôt jeunes, et que je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas lu les Dépossédés, donc je suis allé les acheter pour leur donner en disant il n'y a aucune obligation, mais bon, quand même, la base, c'est d'avoir lu les Dépossédés, qui réunit tout ce que j'aime, c'est évident, à la fois politique, littéraire, à la fois toutes ces nuances, quoi, et pas du tout opposer l'anarchie à une société consumériste, enfin. Voilà, incroyable. Qu'est-ce que j'aime beaucoup ? J'aime beaucoup des livres improbables. Alors là, je pense à, je vais mal le dire, La Cité des Fous et des Saints. Je ne sais jamais si c'est La Cité des Fous et des Saints ou La Cité des Saints et des Fous, de Jeff Vandermeer, pour son côté aussi fou littéraire. Voilà, conteur incroyable et fou littéraire, puisque à l'intérieur, il y a des textes cryptés, il y a des dialogues entre universitaires, des dialogues de notes de bas de page entre universitaires, enfin voilà.
Il y a même Banks, je sais que vous aimez bien Banks.
Ouais, j'aime bien Banks, j'aime beaucoup Banks dans le cycle de la culture, beaucoup. Et après mon auteur, c'est bête à dire, il y a Brunner, bien sûr. Mais là, un des auteurs auxquels je pense et qui n'est pas toujours classé dans ce genre, dont on ne connaît pas bien les frontières d'ailleurs, c'est Antoine Volodine. Voilà, pour moi, il y a un auteur, c'est Antoine Volodine. Voilà, Antoine Volodine et Antoine Volodine.
On commence. Petite question qui fâche, Mathias.
Ah.
Comment on fait en tant qu'éditeur quand il n'existe qu'Alain Damasio dans le cœur du grand public et des médias? Il n'y a pas un peu une frustration de voir que le ruissellement ne fonctionne définitivement pas sur les autres?
Alors voilà, il semble que là encore, la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. C'est dingue. Donc j'oscille, ou alors c'est en même temps entre le bonheur. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Si on nous avait dit qu'il y aurait un tel succès, c'est quand même génial, c'est génial. Effectivement, voilà, l'énervement, quoi. Parce que les mêmes qui encensent Damasio ne font pas pour moi l'effort de lire le reste de ce que nous éditons. Alors que pour moi, il y a une énorme cohérence. Enfin, la plupart d'ailleurs, ils écrivent ensemble. Ils ont un groupement. Un journaliste pourrait expliquer que ce serait un groupement littéraire. C'est dans Zanzibar. Voilà, donc. Donc c'est dingue, mais je pense que c'est ça être un phénomène. Hein. Voilà, c'est un phénomène littéraire et un phénomène médiatique. Et les médias, bah, c'est certainement, ils sont occupés par l'audience et c'est surtout ça qui les intéresse. Et même s'ils le font bien et avec bonne foi, c'est très frustrant. Quand même, je termine là-dessus pour râler, mais c'est vrai que je râle là-dessus. C'est quand même dur. C'est pendant 10 ans, les 10 premières années de la Volte, certains me l'ont reproché. Je parlais pas de science-fiction parce que justement, je pensais que je devais convaincre des gens qui n'en lisaient pas et qui étaient surtout amateurs de littérature. Et puis j'ai vu que ça marchait pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça marchait pas. Ça, je veux dire, ça les touchait pas. Toujours des gens pour dire non, mais j'en lis pas moi. Ah oui, bah très bien, je donnerai à mon fils ou à ma fille, hein, d'accord. Et donc dans les médias, c'était quand même assez zéro, à part quelques bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau dès le début. Et je sais qui c'est, elle se compte sur le doigt d'une main, mais elle s'était présente. Et c'était vraiment très frustrant. Et du coup, quand Damasio est devenu Alain, enfin ses offres sont devenues connues, on a vraiment revendiqué du coup une science-fiction littéraire et politique, voilà, en disant bah autant au lieu de dire vous savez nous aussi, voilà bon. Et donc c'est bien pour Alain. Néanmoins, tous les autres textes, effectivement, je vois dans les médias, ils vont dire faut demander à la personne qui s'occupe de la science-fiction, et vous le savez pour l'avoir fait vous-même, d'abord, on peut interroger cette question de est-ce qu'il faut absolument avoir une rubrique science-fiction débat. Et deuxièmement, même en quelques années, là, ça n'a pas avancé. Ça a reculé. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de chroniques de science-fiction dans les rubriques de science-fiction dans les médias mainstream. C'est incroyable. Voilà. Bon, voilà. Je râle. Ça m'énerve, ça me déçoit. Et en même temps, ça n'empêche pas les livres de se vendre et de circuler par d'autres biais. Hein.
Après, on peut dire, et pour donner des précisions, c'est que on vit, enfin moi c'est comme ça que j'analyse, on vit la fin de... En tout cas, il y a un âge d'or en ce moment de la science-fiction audiovisuelle et cinématographique, ou de l'image, ou du jeu vidéo. Il n'y a jamais eu autant de séries, de films, de jeux vidéo, de science-fiction depuis à peu près 15 ans. Mais il y a un régressement au niveau de la science-fiction littéraire. Alors, est-ce que c'est lié aussi, parce qu'on lit moins qu'avant, on achète moins de livres, que le médium livre est en concurrence avec les réseaux sociaux, les films, les jeux vidéo et tout ça? Et c'est vrai qu'on assiste quand même à une espèce, et je le vois, hein, on regarde les ventes, on vend aussi moins de, j'ai l'impression qu'on vend, il y a de moins en moins de grands de best-sellers de SF qu'il n'y avait il y a 10 ou 15 ans.
Oui, alors il y a 10 ou 15 ans, je suis pas sûr, je pense que ça remonte à encore plus loin, a priori avant 2000 en termes de vente, hein. Ensuite il y a, enfin bon, je suis d'accord, hein, Lloyd, ça ne cesse de nous étonner, et d'ailleurs tous les éditeurs de la plupart des éditeurs de SF, indépendants ou pas, gros ou petits, sont regroupés dans une association pour faire connaître ces genres-là. Hein. J'ai même accepté que ça s'appelle, enfin, pour moi, dans ma littérature de l'imaginaire, alors que bon, j'ai jamais été fan de ce thème, au moins je mets littérature au pluriel. Et donc, on va dire, voilà, au global, quand on fait des statistiques, depuis 5-8 ans, je ne sais plus, avec l'Observatoire de l'imaginaire, Là aussi, un autre groupement associatif où on fait quand on a le temps. Moi, j'ai loupé les deux dernières réunions. Je m'en excuse. Des statistiques, on voit que grosso modo, ça se vend à peu près autant. Mais pas les. Enfin, voilà. À part Damasio ou Werber, il n'y a pas de best, d'ultra best. Ou Stephen King. Hein. Et qui n'est pas toujours considéré comme étant du genre, mais ça, on s'en fiche. Et donc voilà, on va dire que ça ne bouge pas énormément. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une baisse de la lecture. Le marché est très stable au global. Ça doit baisser en lecture puisqu'il y a de plus en plus de population. Et puis, on ne compte pas, et ça, c'est l'autre étonnement, et on ne compte pas parce qu'on ne sait pas faire. Il paraît qu'on va savoir le faire bientôt. Tout ce qui est ce qu'on appelle young adult, alors que ça produit beaucoup de ce côté-là et ça se vend beaucoup, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas, ça ne laisse pas de m'étonner. Il y a quand même aussi un phénomène qui peut énerver aussi parfois, mais aussi finalement on peut s'en réjouir, c'est qu'il y a beaucoup de science-fiction qui ne dit pas son nom dans des maisons généralistes, et elles ont tout à fait le droit, et des collections généralistes, et des livres d'auteurs qui alors parfois ils récupèrent des thèmes, enfin, ils récupèrent des choses déjà extrêmement utilisées, et tout le monde découvre ça avec émerveillement, mais voilà, il y a quand même de plus en plus de science-fiction dans la littérature. Dites générales et dans des rayons de littérature. Vous remarquerez qu'évidemment, il y a les rayons littérature et les rayons science-fiction, ils ne sont pas les mêmes.
C'est plus que de la SF. De toute façon, le nom du podcast est intimement lié avec votre maison d'édition, puisque cette formulation a été créée pendant une critique qui était la critique des Furtifs qui était sortie pour le Point Pop à l'époque de la sortie de ce grand roman. On a parlé vite fait du déchronologue, de comment vous aviez eu un petit peu récupéré ce projet. On va parler d'un autre coup que vous avez fait. Vous avez publié un texte.
Un coup.
Vous avez publié un texte nommé Hildegarde, écrit par Léon Henry. On l'avait chroniqué aussi dans le Point Pop. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur cette histoire de ce roman qui est quand même pas comme les autres dans votre. Quand on regarde la collection de La Volte, on a Hildegarde, qui est une biographie d'une sainte et qui est un fantastique roman. Comment est né ce projet chez vous, Mathias ?
Bah, il est né chez Léon Henry, hein. Moi j'y suis pour rien.
Vous avez décidé de le publier alors que c'était pas forcément...
Ouais, on a beaucoup discuté. Non, Léo, il a le chic pour aller dans des coins où personne ne va. Pour preuve, là, en 2023, il y a eu trois romans qui sont sortis, trois livres sortis chez trois éditeurs différents et trois livres totalement différents. Chez Rivage, un roman argentin court, très littérature générale, et de la fantasy, premier tome de 10 tomes, de 10 volumes. C'est génial, d'ailleurs, c'est 1000 saisons au Bélial. Et nous, on a publié 120, c'est-à-dire 120 de ces nouvelles, 1,2 kg, 120 nouvelles, centième livre de La Volte. Voilà, donc Léo, je pense que c'est un. Enfin, j'en suis persuadé, c'est un fou littéraire, donc il brasse tous les genres, il s'en fiche des questions de genre, voire au contraire, ça l'intéresse de absolument tout brasser. Donc, voilà, c'est lui qui propose, qui va travailler comme jamais, enfin se documenter en tout cas comme jamais sur Hildegarde. Et c'est pas du tout une biographie, enfin c'est une biographie d'une époque, quoi. C'est-à-dire, voilà, il va énormément se documenter, il va écrire un roman absolument incroyable, en effet. Où Hildegarde doit apparaître 4 pages d'ailleurs, mais c'est un roman dans le roman avec des récits enchâssés dans les récits, enchâssés dans les récits, enchâssés dans les récits. Je pourrais continuer comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, la question elle se pose pas, elle se pose juste. C'est exact. En fait, c'est pas d'Hildegarde que ça parle là pour parler. C'est. Il y a Léo qui travaille, qui fait un roman génial qui s'appelle Hildegarde. La question. Se pose pas pour moi de savoir si c'est à La Volte ou pas de le faire. Justement, je me dis que si personne n'est... Enfin, au contraire, si je me dis que personne n'est capable ou prendre ce risque financier peut-être ou personne ne voudrait le faire, c'est justement le rôle de La Volte de le faire. Donc le rôle, c'est très présomptueux, le rôle de La Volte, c'est d'accompagner ce que proposent Léo, Luvan et les autres, Sabrina, enfin bon, et dans ce qu'ils ont de plus fou, dans ce qu'ils ont de plus exploratoire, de plus littéraire, voilà. Donc c'est exactement notre rôle, mais c'est pas le rayon. C'est vrai que c'est, enfin, il se trouve que pour les classifications de libraires, maintenant je me prends plus la tête avec ça, mais voilà, que c'est à eux de se prendre la tête. C'est voilà que pour les libraires, ça va dans le rayon littérature générale, très bien. C'est pas, enfin, ils font comme ils peuvent, hein, mais ça s'est vendu là en plus et il y a eu beaucoup de coups de cœur, donc c'est bien. Pour Léo, c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'il fait. C'est du merveilleux chrétien, une sorte de fantaisie chrétienne. Ça commence par l'éviscération de 1000 vierges devant Cologne par des barbares, enfin je ne sais plus qui. C'est une scène classique chrétienne.
Comment on fait d'ailleurs pour rejoindre la maison, la Volte? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous lisez un manuscrit Mathias Echenay?
Je suis obligé de prendre mon élan parce que c'est... ça fait longtemps que je dis plus ça parce que tous les éditeurs disent ça. On dit un coup de cœur, les voix singulières. Enfin, c'est tellement... je progresse. Après 20 ans, je commence à pouvoir le dire, mais il me faut encore 20 ans pour le dire encore mieux. Mais la plupart du temps, il y a des moments où on hésite par rapport à certains éléments, comment on retravaille, mais je sais que c'est pour nous, enfin que ça peut être pour nous si ça va jusqu'au bout, si l'histoire tient, si tout ça, la construction est bonne. Et donc ça a rapport, et je ne sais pas bien le dire parce qu'il faudrait que je lise plein de livres là-dessus, évidemment je ne le fais pas, sur le langage. Je pense que c'est plus une affaire de langage. Et l'exemple pour moi, c'est vraiment ça, c'est Léo Luvan, par exemple, sur comment ils inventent un langage qui émane d'eux, qui est leur rapport au monde, ou plusieurs rapports au monde, et qui font découvrir le monde autrement. Enfin, il y a vraiment... Enfin, quand on lit... Si j'ai un doute, par exemple, sur un manuscrit, je pense à des phrases de Léo ou de Luvan, c'est-à-dire où vous avez à la fois quelque chose que vous avez déjà, une tension perceptible ou pas, mais qui joue, qui agit sur vous, avec des, ça fait appel à des scènes que vous avez l'impression de connaître et en même temps que vous ne connaissez pas. Enfin, il se passe quelque chose. Et donc, c'est horrible à dire, mais bon, voilà, je suis ronchon, mais je crois essayer d'être très honnête. Je cherche pas un roman bien écrit seulement. Enfin, c'est très très prétentieux, hein, mais ça, j'ai envie que la Volte soit très prétentieuse, que ce soit les snobs, enfin, que ce soit le truc ou vraiment des livres absolument incroyables qu'on trouverait pas ailleurs. Et donc, dans l'écriture, c'est, je crois que moi, ce que ça, la façon dont ça agit sur moi, c'est à la fois on lit une histoire, je veux qu'il y ait une histoire, mais à la fois, même certains pensent que justement il n'y a pas assez d'histoire, mais en même temps que ça nous qu'on se demande sur c'est quoi une histoire, qui on est pour lire cette histoire, qui est-ce qui raconte cette histoire et pourquoi on raconterait une histoire, enfin c'est tout ce questionnement sans jamais sortir d'un texte qui agit quand on lit je prenais en exemple Luvan et Léo, mais c'est vraiment ça. Voilà, je réponds avec mes moyens. Je sais que maintenant je parle beaucoup de langage et quand j'interviens dans des écoles ou ailleurs, je dis bah voilà, faut demander à des profs de littérature, des chercheurs pour d'expliquer ça, ils pourront l'expliquer beaucoup mieux. Quoi. C'est un rapport au monde qui forge quelque chose. Alain, il cite souvent Deleuze, donc je cite Alain citant Deleuze, que je fais semblant d'avoir lu, comme beaucoup de gens, pas lui en tout cas. C'est quelqu'un qui forge la langue dans la langue. Quoi. Voilà, il y a un truc qui creuse la langue, qui forge. Voilà. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui agit de ce côté-là. J'en lis par ailleurs avec beaucoup de plaisir. Voilà, des romans qui sont bien écrits, qui sont très enlevés, qui ont des idées, bien sûr. La SF a beaucoup d'idées et on n'a pas du tout l'apanage de la politique ou des idées ou même de l'émancipation. Maintenant, je parle de plus en plus d'émancipation. C'est pour changer un peu aussi. Il y a ce que je lis et ce que je publie. Enfin, ce que je publie, je le lis, mais ce que je lis, je ne le publie pas nécessairement.
Vous aimez bien pester contre les jurys littéraires d'imaginaire, Mathias Echenay. Qu'est-ce que vous leur reprochez alors? Un manque peut-être comme les autres. Un manque peut-être comme les autres d'ouverture d'esprit face à des romans qui sont peut-être différents.
Non.
Un imaginaire peut-être trop classique ou finalement.
Non, c'est beaucoup plus technique que ça. C'est pas du tout. Ils ont leur goût. Après, je peux effectivement grogner parce que c'est pas mes livres que je considère comme étant les meilleurs du monde. Mais c'est pas votre cas. Mais c'est vraiment n'avoir jamais discuté avec moi que de penser que juste je pèse parce que mes livres ne sont pas sélectionnés. Quoi. C'est quand même ridicule. Je suis persuadé qu'ils ne sont pas tous lus. Voilà. Et ça, c'est inadmissible. Et je vais le dire autrement. Si on est juré d'un prix littéraire, moi, j'aurais honte de ne pas lire les livres. Voilà. Et je ne comprends pas, pour le dire comme ça, puisque vous me branchez, je ne comprends pas que, carrément, on se fixe une barre. Enfin, peut-être que ce n'est pas possible autrement, mais moi, je ne le ferai pas. C'est-à-dire où, où les mêmes jurés doivent lire toutes les nouvelles, toutes les novellas françaises, enfin francophones, traduites, les romans, les essais, la jeunesse, les... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, faut pas le faire. Faut juste pas le faire, c'est tout. Faut pas l'annoncer. Voilà. Et donc, voilà, sinon, après, je peux râler parce que mon livre, il est pas... Voilà, mais il est... parce que certains des livres sont pas sélectionnés. Après, si on regarde, j'ai quand même pas mal de livres qui ont eu le GPI, donc...
Le Déchronologue, Les Furtifs.
Ah, vous avez révisé.
Ouais. Toxoplasma, de Sabrina Calvo.
Oui, bien sûr.
C'est ceux que j'avais en tête. Hein, c'était ceux qui m'ont aussi...
Bah, il y avait eu La Horde aussi.
Marqué. La Horde avait eu...
Bien sûr. Oui, oui. Et, Alain a eu pour La Nouvelle aussi. On a eu de sur la traduction. Donc non, mais c'est bien. Non, non. C'est juste, par exemple, moi... J'entends des fois des gens dans le milieu, enfin bon, vous dites le milieu, mais en fait, je ne sais pas qui c'est le milieu, mais ou alors c'est vraiment 9 personnes, quoi. Mais je dis 9 au hasard. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles en France de science-fiction. Bah non, il n'y en a pas beaucoup, donc autant les lire toutes. Donc c'est vrai que j'avais été pas content une année où ça devait être le recueil sur la santé, parce que de temps en temps, on fait des recueils thématiques. Et j'ai eu la confirmation qu'il n'avait pas été lu. Voilà. Et la dernière fois que j'ai râlé, pour le dire comme ça, puisque vous me rangez, il n'y a pas de problème, la dernière fois que j'ai râlé, c'était pas parce qu'un livre n'avait pas eu de prix, c'est qu'il n'était même pas sélectionné. Je ne comprends pas pourquoi Témaon de Michael Rock n'était même pas dans la sélection. Voilà, c'est tout.
Michael Rock qui était venu dans notre podcast pour parler de Témaon. D'ailleurs, en parlant du recueil de nouvelles, hein, Mathias, j'ai une autre question perso. Est-ce que cela vous a fait plaisir quand je suis venu vous voir pour vous dire que je voulais adapter une nouvelle de votre recueil Demain le travail, dans une BD qui sort en mai prochain, sachant que j'ai regardé mes archives, c'était le premier article que j'avais fait sur La Volte, et j'ai rencontré La Volte avec ce recueil Demain le travail, c'était en 2017, et finalement, c'est la première histoire que je fais en bande dessinée vient d'une nouvelle de La Volte. C'est pas beau, ça ?
Non, mais pour rigoler, c'est surtout, j'y ai pas cru une seconde. Moi, quand quelqu'un me vient, veut faire des trucs, je dis bah ouais, faut y aller. En plus, comme j'ai jamais fait de contrat avec l'auteur et puis que vu comment on les paye, j'ai effectivement rien réclamé ni rien, mais je le regrette. Non, c'est pas que je le regrette, mais je suis très content. Non, je suis très content, c'est incroyable. Mais non, bravo, parce que j'y croyais pas. Voilà, fallait aller jusqu'au bout et tout ça. Je voyais très bien en quoi ça pouvait faire une BD. C'est hyper visuel. Mais bon, bravo.
On a hâte de vous montrer ça et de prendre la photo avec vous le 15 mai.
Mais je suis pas là.
Non, là, c'est le 15 mai, c'est le jour de lancement. Mais on sera là de toute façon à la Comédie du Livre à Montpellier.
Oui, parce que j'y vais très tôt à la Comédie du Livre.
On sera là à Montpellier. Vous serez obligé de venir sur le stand et de faire dédicacer cet album.
J'ai même jamais rencontré l'auteur. Hein.
Ouais, qui habite au Canada maintenant, ouais. Emmanuel Delporte. Ouais. J'en avais parlé sur France Inter quand il est décédé, et quand même c'était aussi le moment de faire un petit hommage à Philippe Curval, qui est un des pionniers de la SF française. Peut-être, bon, je ne vais pas parler de souvenirs, vous en avez beaucoup avec lui, mais qu'est-ce que vous recommanderiez aux auditeurs de C'est plus que de la SF de lire de Philippe Curval ?
Ceux qui lisent pas beaucoup de SF, par exemple, ceux qui lisent pas beaucoup de SF ou qui croient ne pas en lire beaucoup, je recommande Un souvenir de Loti. Pas seulement parce que c'est très court, mais enfin ça aide. J'ai même créé la collection pour lui quand même. Hein. J'avais depuis longtemps envie de créer une collection de novellas sur les utopies et ça s'appelle maintenant Utopia. Et en fait, c'en est pas vraiment une, j'en sais rien. Mais c'était un prétexte pour la faire, cette collection. J'aimais tellement ce texte que j'ai créé cette collection. On a tout dans Philippe Curval, on a tout de Philippe Curval dans ce petit texte. Une sorte un peu, c'est pas désuet, mais une sorte de clin d'œil à Mandrake. Et là, il faut savoir qui est Mandrake. Et en fait, c'est un texte beaucoup plus surréaliste que science-fictif, même si c'est dans une autre planète et que c'est un couple qui doit atteindre l'immortalité, enfin qui doit passer quelques épreuves pour ça. Et mais surtout, il y a 1000 idées par page, quoi. C'est ça aussi, de rentrer dans un univers luxuriant avec des scènes de cul hallucinantes. À chaque fois que je parle de... Ça surprend toujours déjà quand un éditeur se met à parler scènes de cul. Et puis, quand j'avais Philippe à côté, avec ses 92, 94 ans, c'était encore plus drôle parce que c'est quand même un écrivain qui écrit des scènes érotiques ou très fortes, mais hallucinantes. Et beaucoup d'auteurs me disent que c'est très difficile à écrire. Donc voilà, donc... Donc un souvenir de Loti, voilà. Sinon, il y a plusieurs classiques. Là, je fais une nouvelle édition de, puisque je change tous mes formats. Donc, je fais une nouvelle édition de L'Europe après la pluie, qui regroupe trois romans classiques en fait pour moi que j'ai lus ado, hein, même. Dont Cette chère humanité, qui parle de l'Europe 30 ans et relire ça 30 ans après, c'est jouissif, quoi. C'est jouissif.
Comment on gère le succès des Furtifs, Mathias Echenay? Il y a aussi toute une aventure, hein, autour des Furtifs. Ça a été, pareil, c'est devenu un des romans de science-fiction les plus vendus en grand format, important de le préciser, puisqu'il y a aussi les formats poche. En grand format, ça a été un triomphe médiatique, où vous avez eu tout le monde, même la télé, chose qui n'arrive quasiment jamais quand on parle de science-fiction. Comment vous avez géré ce succès-là? Puisque il a fallu quand même anticiper, il a fallu imprimer, il a fallu aussi répondre à toutes les demandes. Comment on fait quand justement on est sous le feu des projecteurs?
Pour frimer, j'aime bien dire que la clé de la chose, tout le monde le sait, mais on n'arrive jamais à le faire, c'est de réfléchir avant. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, comme Alain était en retard et qu'on avait, avec plein de Volté, réfléchi aux 15 ans de la Volte, c'est les 15 ans en 2019, et donc réfléchir à c'était quoi la Volte, c'était quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on voulait dire, comment faire et tout ça. Donc ça a été concomitant. Et du coup, j'avais un petit groupe autour de moi et on avait pris ce temps-là pour réfléchir. Je me suis entouré plus que d'habitude grâce à des conseils avisés d'amis. D'abord, il y avait une agence de presse, hein. Alain me dit pourquoi tu fais avec une agence de presse, puis au bout de deux secondes il a compris, quoi, c'est leur métier en fait d'organiser tout ça. Et puis pour le coup j'ai vraiment j'avais déjà commencé à faire du conseil par ailleurs, là j'en ai moins fait, et puis j'ai beaucoup tourné avec lui, j'étais très présent et j'avais des gens autour de moi qui étaient payés pour accompagner, hein, voilà. Mais c'était un truc de dingue, c'était monté sur un rodéo, j'ai jamais fait, hein, mais c'était un rodéo, quoi. Mais on était hyper prêts, je pense. On a été surpris par le succès, donc j'étais à la ramasse. Je suis quand même censé être l'expert mondial français de la diffusion du commercial dans l'édition. Et j'étais planté tout le temps, c'est-à-dire on était en rupture tout le temps. Et en même temps, je le sais, il n'y a pas de règles, donc quand ça démarre comme ça, on ne sait pas jusqu'où ça va. Donc j'ai pas boudé mon plaisir. Enfin, Alain dira que à chaque fois je calmais ou que je faisais la tête. Je l'accompagnais partout. On a créé énormément de rencontres, d'événements. On a commencé par les gens qui avaient été là au départ, hein, les librairies et les gens. Ça, c'était bizarre parce que c'était pas toujours les plus grosses librairies. Puis après, on a fait les plus gros et puis on a fait des ponts. On a fait quand même un truc super prétentieux. On a fait un lancement à la Gaîté Lyrique à Paris.
J'y étais. J'ai même animé la rencontre.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, on y a mis le paquet. Et puis en termes d'argent, pour être très précis, j'étais détendu parce que d'abord, mon secret, c'est le déni. Non, pas que. En fait, on avait Folio qui avait déjà acheté les droits des Furtifs et qui avait donné beaucoup d'argent. On a eu quelques aides du CNL et d'Île-de-France. En tout cas, on n'a pas été on était prêt de ce côté-là aussi, quoi. Mais c'était dingue.
C'est quand le prochain livre d'Alain Damasio en roman, Mathias?
Pas le prochain.
La Horde du Contrevent 2, c'est pour quand?
Et ça, vous l'avez je le raconte là parce qu'on le raconte très très peu quand même. J'ai peut-être pas servi à grand chose pour le succès de La Horde du Contrevent, parce que ça nous dépasse. Enfin, il faut faire la maison d'édition, bien sûr, il faut faire les livres, tout ça. Mais en fait, j'avais surtout dit à Alain, mais tais-toi, arrête de parler, tout au début, donc en 2004, arrête de dire tome 1. Et donc, je dis ça parce que quand il sera très très vieux, voire oublié, conspué, j'en sais rien, et qui sortira à la Horde du Contrevent tome 2, tout le monde dira « Ah ouais, d'accord, il nous refait le coup de la Horde parce qu'il a besoin de se refaire une santé, parce qu'on ne le voit plus. » Non, en fait, il a toujours prévu que ce soit en deux tomes. Et là, il ne sent pas d'attaque pour faire le... Donc, continuer de lui en parler, Lloyd, mais il c'est pas ce qu'il va écrire la prochaine fois. Là, il a terminé des chroniques et une nouvelle, qui est très très bien cette nouvelle. Ça sort au Seuil, alors nous on est en coédition, et ça sort en avril. Mais La Horde 2, qui est. Je connais le projet, hein, voilà. Je sais pas si on l'aura un jour.
La Horde était prévue comme un boléro. Alain d'Amazon nous l'a même dit, hein, sur le podcast de C'est plus que de la SF. C'était la première émission. Et on devrait retrouver Alain d'Amazon prochainement pour son essai qui va arriver au Seuil. C'est dur comme question. Je vous la pose quand même. C'est quoi la plus grande fierté en 20 ans ? Je ne demande pas votre livre préféré parce que.
Ça marche jamais. C'est tous vos enfants. C'est pas possible.
C'est vos enfants, les auteurs.
Non, mais la grande fierté. C'est fierté, mais. Ça doit m'arranger, enfin, comme tout le monde. Mais je me dis que j'ai fait quelque chose. Je disais que nous, c'était la Molte. Bon, mais je me dis. D'abord, je crois, comme la plupart de mes amis, que c'est très important de lire des fictions différentes. Qui casse une sorte de fiction dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, d'aucuns diraient macronienne, mais Macron, c'est une sorte de serviteur. Enfin, c'est pas Macron à cause. C'est donc une sorte de d'univers gafamisé. Et donc voilà. Donc la fiction permet d'imaginer, de pas de s'évader nécessairement aussi, mais elle permet d'imaginer d'autres façons de vivre, d'autres façons de lutter, d'autres façons. Donc, je crois vraiment que la littérature n'a pas à être nécessairement utile, hein, néanmoins. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose que ça apporte est très fort. Et c'est génial. Donc, si on m'avait dit en 2004 que la Volte en serait là, je ne serais pas étonné. Je peux dire qu'on serait étonné. Je serais très étonné que le succès de Damasio soit à ce point-là, hein, bien sûr. Mais c'était dans nos rêves, ou même pas dans nos rêves. Mais je serais très très heureux et pas complètement étonné. Il faut qu'il y ait plein de choses, une conjonction de plein d'événements. Mais c'est-à-dire vraiment un endroit littéraire, politique, qui est, j'espère, hein, une sorte de garant d'une certaine exigence littéraire, avec cette liberté, avec des amis autour, avec des auteurs qui m'ont apporté énormément, dont je suis hyper fier. Enfin voilà, quand je dis ça, plein de gens pourraient dire ça certainement, mais j'ai vachement de chance. Moi, j'ai juste accompagné. Enfin, c'est pas de la fausse modestie. Je suis pas modeste, mais j'accompagne juste les auteurs, quoi. C'est juste ça, et c'est dingue, c'est génial, quoi. Voilà. C'est vraiment. J'ai fait un truc dans ma vie, et j'en suis effectivement, fier, mais heureux. Enfin, j'ai pas le sentiment du devoir accompli du tout, mais il y a un côté accomplissement un peu quand même. Je râle parce que je voudrais que les livres se vendent plus et touchent plus de gens. Il y a un accomplissement, un sentiment d'accomplissement pour les furtifs. Vraiment, ça a calmé aussi quelque chose en moi. On a fait un truc bien.
Vous avez prouvé. C'est important de...
Oui, c'est ça. J'ai prouvé quelque chose, c'est vrai.
C'est important de prouver.
C'est drôle que j'en sois là encore, mais oui, c'est ça.
Non, mais c'est universel. Question, qu'est-ce qui va se passer pour là où vous ouvrez un peu le podcast, ça y est, on commence à parler de la Volte et des 20 ans de la Volte. Ça va être quoi les célébrités durant l'année ? Est-ce que vous avez commencé à prévoir des
les
petites choses ?
Les célébrations, là, c'est pas les célébrités.
Oui, la célébration, pardon.
Merci. On a commencé, on a fait deux jours à Paris, à Ground Control, où on a invité des gens, il y a eu des concerts, tout ça. On a la voix, on a des performances, on a des différentes choses dans des festivals de science-fiction. La comédie du livre qui réinvestit l'imaginaire, n'est-ce pas ? Donc, où Alain a une carte blanche. Le festival Les Imaginales à Épinal, où on a une exposition, j'y reviendrai, mais il y a une exposition, en plus de toutes nos tables rondes, performances. Ça, c'est bien. J'essaye qu'on puisse intervenir dans d'autres salons ou dans des lieux où on parle plus d'essais, de littérature du réel, comme on dit, ou de société. Voilà, bon, c'est plus difficile. Des tournées un peu en librairie, des prises de parole en librairie médiathèque, où moi-même, justement, bah là c'est le cas, où j'accepte je l'ai conseillé à plein d'éditeurs, mais je ne l'ai jamais appliqué à moi, d'incarner un peu plus ta maison, qu'on fasse ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire, j'ai toujours vraiment le sentiment profondément d'être au service des... Enfin, voilà, être derrière, de cavaler derrière les auteurs et les autrices. Et du coup, voilà, c'est à eux de chaque fois que j'essaie de mettre en avant. Mais là, voilà, de parler de maison d'édition, de parler d'écologie du livre, parler de littérature, de science-fiction, des enjeux des imaginaires, parler d'utopie, voilà. Donc, avec eux et elles, ou moi tout seul, il y a un colloque universitaire, ça c'est trop classe, je vais y aller avec mon cahier de notes en juin. Voilà, on essaye de créer à Lyon ou à Paris d'autres, on parle de Garges-lès-Gonesse en ce moment, enfin, de créer des événements. Voilà, on a envie, par exemple, on n'a pas trouvé le lieu, c'est un appel, mais il faut pas que ce soit des théâtres parce que il faut de la sécurité et tout ça. Mais notre rêve, et à Alain aussi, à Benjamin Maillet, enfin à tout le monde, c'est de faire la lecture totale du début à la fin de La Horde du Contrevent. Et a priori, ça prend, d'après notre ami Floriane Pochon de Faune Radio, ça prend 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est un de nos rêves. Voilà. Donc on a plein de délires. Et puis, bah voilà, l'exposition aux Imaginales, elle pourrait tourner. Disons que surtout, c'est un livre. On fait un livre. C'est pas un livre commémoratif parce que ça voudrait dire que voilà, on s'enterre. Alors que je voudrais parler des 20 ans qui viennent. Mais on a invité 20 artistes à illustrer 20 univers de la Volte. Ils choisissaient. Enfin, ils n'avaient pas le droit de prendre un livre déjà choisi, c'est tout. Et c'est des artistes très différents, sur des médias hyper différents. Donc ça va donner un album qui ouvre énormément et qui peut-être donne envie de découvrir ces univers parce qu'il y aura à chaque fois un extrait. Ils font chacun 3 illustrations. Donc ça sera un très bel album. Et comme on a, comme on va perdre énormément d'argent là-dessus, et que ça me fait rire, mais en fait ça me fait pas rire, donc on va lancer une souscription avec des tirages de tête pour pouvoir faire ça de la plus belle des manières. Voilà.
Ah, ma dernière question, une petite. Vous la connaissez déjà, Mathias Echenet. On fait quand un MOOC d'Amazio ensemble, Mathias?
Quand tu veux.
Ce sera le mot de la fin. Alors, bon anniversaire, Mathias Echenet.
Merci, Loïc Chéri.
J'ai hâte de vous accompagner vers les 30 ans de la Volte, voire les 40 ans, j'espère encore plus. Un grand merci de nous avoir accueillis chez vous pour ce podcast. On était très contents de fêter notre 200e épisode avec vous. Et évidemment, on remercie les auditeurs, les auditrices, tous les gens aussi, les invités qui sont venus sur C'est plus que de la SF, de faire vivre cette émission. J'espère qu'on pourra vous en proposer 200 de plus. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Et évidemment, allez lire La Volte, allez lire Alain Damasio. Vous le savez très bien si vous nous connaissez, si vous nous suivez depuis longtemps. C'est plus que de la SF, Alain Damasio. Et donc, on ne peut que recommander de lire ses romans. On se dit à très bientôt dans C'est plus que de la SF.